Chapitre 104. Le cauchemar. Axel n'arrive plus à manger. Il se sent malade. Son regard est irrémédiablement attiré par la photo de Beverly. Raphaël trempe tranquillement ses frites dans du ketchup sur le bord de son assiette. Axel s'aperçoit soudain qu'un jeune homme les observe depuis le seuil de la porte. Il a l'air fatigué et inquiet. Il tient un téléphone portable dans sa main.
« Peter !» crie Raphaël. « Viens !»«
Je n'ai pas envie !» dit le jeune homme d'une voix faible.
« Ce n'était pas une question !» dit Raphaël avec un sourire crispé.
Le garçon les rejoint et salue timidement Axel Rissen.
« Voici mon fils !»
explique Raphaël comme s'il s'agissait d'un dîner tout à fait ordinaire.
« Salut !» dit Axel d'une voix chaleureuse.
Près du minibar, l'homme qui était assis à côté du pilote dans l'hélicoptère lance des cacahuètes à un chien enjoué au poil long et dru. Ses cheveux gris ont un aspect métallique et ses lunettes blanches scintillent.
« Les noix le rendent malade !» dit Peter.
« Tu pourras aller chercher le violon après le repas, non ?»
demande Raphaël avec une soudaine fatigue dans la voix.
« Notre invité est passionné par la musique !»
Peter hoche la tête. Il est pâle et en sueur. Les cernes autour de ses yeux sont presque violets. Axel se force à sourire.
« Tu as quoi comme violon ?»
Peter hausse les épaules.
« Il est bien trop beau pour moi. C'est un Amati. Ma mère était musicienne. C'est son Amati. »
« Un Amati ?»«
Quel instrument est véritablement le meilleur ?» demande Raphaël. « Amati ou Stradivarius ?»«
Cela dépend uniquement de la personne qui en joue, » répond Axel.
« Vous êtes suédois, » dit Raphaël. « En Suède, il existe 4 violons fabriqués par Stradivarius, mais aucun sur lequel est joué Paganini. Et j'imagine,
c'est sûrement exact, » dit Axel.
« Je collectionne des instruments à cordes qui se souviennent encore comment. Non, laissez-moi le formuler différemment. Si ces instruments sont manipulés comme il le faut, vous entendrez dans leur musique le regret d'une âme perdue. »
« Peut-être, » répond Axel.
« Je veille à rappeler ce regret lorsqu'il est temps de signer un contrat, » poursuit Raphaël avec un sourire dénué de joie. Je réunis les parties concernées, nous écoutons de la musique, ce son triste, et ensuite nous concluons un pacte en misant sur nos vœux et nos cauchemars. C'est ça, un contrat Paganini.
Je vois.
Vraiment ? Il n'est pas possible de le résilier, même par sa propre mort. Car celui qui rompt les accords ou se donne la mort doit savoir que son pire cauchemar se réalisera.
Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ?
Je dis seulement, ceci n'est pas à prendre à la légère, et je...
Comment dire ? Se demande-t-il d'une voix hésitante.
Je ne vois pas ce que gagnerait mon activité à ce que vous me preniez pour quelqu'un de bon.
Raphaël s'approche du grand écran de télévision accroché au mur. Il sort un disque de sa poche et l'introduit dans le lecteur DVD. Peter s'installe sur l'un des bras du canapé. Le garçon jette un regard froid sur les hommes qui se trouvent dans la pièce. Il est blond et ne ressemble pas du tout à son père. Son corps n'est pas large et trapu, au contraire. Il est plutôt élancé, son visage est délicat. L'image très saute et des rayures grises défilent sur l'écran. Axel sent la peur grandir en lui lorsqu'apparaissent sur l'image 3 personnes qui sortent d'une villa en briques. Il reconnaît aussitôt 2 d'entre elles, l'inspecteur Yonalina et Saga Bauer. La 3e est une jeune femme aux traits latins. Yonalina prend son portable et téléphone. Il ne semble pas obtenir de réponse. Leurs visages sont fermés et trahissent une inquiétude certaine. Ils montent tous les 3 dans une voiture. D'un pas instable, on approche la caméra de la porte d'entrée. Elle s'ouvre et l'enregistrement s'obscurcit jusqu'à ce que le diaphragme automatique s'ajuste à la lumière intérieure. 2 sacs de voyage sont posés dans le vestibule. La caméra continue en direction de la cuisine, tourne ensuite à gauche et descend un escalier, longe un couloir en carrelage et pénètre dans une grande pièce avec une piscine.
Une femme en maillot de bain est assise dans un transat tandis qu'une autre avec les cheveux coupés à la garçonne parle au téléphone. La caméra recule brusquement, attend que la conversation téléphonique touche à sa fin, puis continue d'avancer. Un bruit de pas résonne sur le sol et la femme qui tient encore son téléphone tourne son visage fatigué vers la caméra. Elle se fige dans une expression de terreur.
« Je crois que je n'ai plus envie de regarder, papa, »
dit le garçon d'une voix faible.
« C'est maintenant que ça commence, » répond Raphaël.
Le film s'interrompt et l'écran devient noir. Après un instant, une image tremblote puis se stabilise. La caméra semble désormais fixée sur un trépied et filme les deux femmes. Elles sont assises l'une à côté de l'autre contre le mur en carrelage. Sur une chaise devant elles se trouve Pontus Salman. Il semble respirer rapidement et son corps se tortille nerveusement sur la chaise. L'heure au coin de l'image indique que l'enregistrement remonte à seulement une heure. Un homme habillé en noir et dont le visage est masqué par une cagoule empoigne Véronique par les cheveux et approche son visage de la caméra.
« Pardon, pardon, pardon !» dit Raphaël d'une voix de fausset.
Axel lui adresse un regard interrogateur, mais entend soudain la voix de Véronique Salman.
« Pardon, pardon, pardon !»
Sa voix tremble de peur.
« Je ne savais pas !»
piaule Raphaël en désignant la télé.
« Je ne savais pas !»
dit Véronique en pleurant.
« J'ai pris la photo, mais je ne voulais pas faire de mal. Je ne savais pas à quel point c'était stupide, je pensais seulement que... »«
Choisissez !»
dit l'homme cagoulé à Pontus Salman. « Dans quel genou est-ce que je tire? Celui de votre femme ou celui de votre sœur ?»«
Pitié !» chuchote Pontus. « Ne faites pas ça !»«
Qui ?»«
Ma femme !» répond Pontus d'une voix à peine audible.
« Pontus !»
l'implore Véronique.
« Pitié, ne le laisse pas !»
Pontus s'effondre en larmes. Ses pleurs sont saccadés, déchirants.
« Ça va lui faire mal si je lui tire dessus, » avertit l'homme.
« Ne le laisse pas faire ça !»
s'écrie Véronique prise de panique.
« Vous avez changé d'avis? Vous voulez que je tire sur votre sœur plutôt ?»«
Non. »«
Demandez-moi de le faire. »«
Qu'est-ce que vous dites ?»
demande Pontus terrifié.
« Demandez-le-moi gentiment. »
Le silence tombe. Puis Axel entend Pontus Salman dire «
« Veuillez, s'il vous plaît, tirer dans le genou de ma femme. »«
Je peux lui tirer dans les deux, puisque vous me le demandez ainsi, » dit l'homme en posant son revolver contre le genou de Véronique Salman.
« Ne le laisse pas faire ça !»
s'écrie-t-elle.
« Pitié, Pontus !»
L'homme tire. Une brève détonation résonne et sa jambe frétille. Du sang éclabousse le carrelage. Un petit vol de gaz de propulsion s'échappe du pistolet. Véronique pousse un hurlement jusqu'à ce que sa voix s'étrangle. Il tire dans l'autre genou. Le recul fait sauter le canon du pistolet. Sa jambe se tord dans un angle impossible. Véronique crie de nouveau, d'une voix rauque et étrangère. Son corps est parcouru de spasmes et du sang ne cesse de couler sur le carrelage en dessous d'elle. Pontus Salman vomit et l'homme cagoulé lui jette un regard étonné, presque rêveur. Le haut du corps de Véronique glisse sur le côté. Haletante, elle tente d'atteindre ses jambes de ses mains. L'autre femme semble être en état de choc. Son visage est verdâtre et ses yeux ne sont plus que deux grands trous noirs.
« Votre sœur souffre de troubles psychiques, non ?» demande l'homme d'un ton amusé. « Vous pensez qu'elle pige ce qui se passe ?»
Il tapote ensuite la tête de Pontus Salman, comme pour le réconforter, puis lui demande «
« Je viole votre sœur ou je tire sur votre femme ?»
Pontus ne répond pas. Il semble sur le point de perdre connaissance. Ses yeux roulent en arrière et l'homme le frappe violemment au visage.
« Répondez-moi ! Je tire sur votre femme ou je viole votre sœur ?»
La sœur de Pontus Salman secoue nerveusement la tête.
« Violez-la !»
chuchote Véronique entre ses halètements.
« Pitié ! Pitié, Pontus !» « Dis-lui de la violer. »«
Violez-la, »
chuchote Pontus.
« Comment ?»«
Violez ma sœur. »«
D'accord, tout de suite, » dit l'homme.
Axel baisse les yeux sur le sol entre ses pieds. Il lutte pour ignorer les râles, les implorations, les cris d'épouvante du film. Il tente de diriger ses pensées vers des souvenirs musicaux, essaie de comprendre les intervalles qui apparaissent chez Bach, ces intervalles qui semblent baignés de lumière. Enfin, le silence s'installe. Axel regarde l'écran. Les deux femmes gisent, mortes, contre le mur. L'homme cagoulé est debout, haletant, un couteau dans une main et un pistolet dans l'autre. Votre cauchemar s'est réalisé. Maintenant, vous pouvez vous suicider, dit-il en jetant le pistolet sur Pontus. Il disparaît ensuite de l'image, derrière la caméra.